Hi, I'm Gaëlle, the host of Langue Talk Slow French. 99% of this podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languagetalk.com/frenchpod, you can read an interactive transcript as you listen. Here you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lingua Talk Slow French. Nous voici en été et comme l'année dernière, j'ai décidé de vous faire un peu voyager en France depuis votre canapé. Pendant 2 mois, vous allez entendre des interviews de personnes qui vont vous présenter leur ville en France. Nous irons à Lille, Saint-Étienne, Dijon, avec toujours la même idée en tête, vous faire découvrir toute la diversité des villes françaises et vous montrer que Paris n'est pas la seule ville intéressante à visiter. Bonne écoute! This year I'm back with my summer special, just like last year, as I wanted to make you travel in France from your own sofa. For 2 months you will hear interviews of people who will talk about their city in France. We will travel to Lille, Saint-Étienne and Dijon, always with the same idea in mind, to show you all the diversity there is in France and make you realize that Paris is definitely not the only place worth visiting. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir Leïla. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et donc Leïla, aujourd'hui, va nous parler d'une ville française qui s'appelle Lille. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Oui, je suis Leïla, j'ai 29 ans, je travaille dans un collège comme documentaliste à la bibliothèque du collège. Et j'habite maintenant à Charleville-Mézières, à 2 heures de Lille.
Très bien. Donc documentaliste, oui, c'est un métier intéressant. Peut-être un jour on fera un podcast ensemble pour ça. Mais donc c'est travailler avec les livres, mais dans un milieu scolaire, donc avec des étudiants au niveau du collège, c'est ça? Donc collège, oui. Ce n'est pas college, c'est plutôt senior school pour le niveau britannique. Très bien. Alors, aujourd'hui, tu voudrais donc nous présenter la ville de Lille. Pourquoi?
Parce que c'est une ville très intéressante, elle est à 2 heures de Londres, à 2 heures de Bruxelles, à 2 heures de Paris, même moins, et à 2 heures de Amsterdam. Donc c'est un peu aller au centre de capitale européenne. C'est une ancienne ville industrielle, une capitale culturelle aussi de l'Europe pendant 4 ans. Et j'y ai vécu et c'était un très bon moment.
D'accord, donc oui, donc ton lien personnel avec cette ville, ce n'est pas la ville où tu es née, mais tu as habité quand même dans cette ville, c'est ça?
J'y ai étudié après le bac. Je suis allée à Lille pour étudier pendant 6 ans et j'y ai travaillé pendant 4 ans.
D'accord, donc au total, tu es restée 10 ans dans la ville de Lille. Donc ça t'a donné une bonne expérience de cette ville.
Oui.
Très bien, donc tu as commencé déjà à nous donner des informations intéressantes donc sur sa situation géographique. Donc, on est au nord ou au sud de la France?
On est au nord, on est à 1h30 au nord en voiture, au nord de Paris, à la pointe, à la frontière belge. On peut aller en Belgique en métro à Lille.
Oh waouh, je ne savais pas ça. Ouais, donc il y a des transports publics, des transports communs pour aller entre la France et la Belgique.
On arrive à la frontière belge.
Ah, excellent, très bien. Donc oui, donc Lille, vraiment une ville très au nord. Je pense que c'est la plus grosse ville française au nord en France.
Oui, dans les 10 plus grandes villes françaises, oui. Il y a des autres plus petites villes. Dunkerque est la ville la plus au nord de France.
D'accord. Mais en ville, avec cette importance, cette taille, c'est la plus grosse ville. Donc tu nous disais, oui, à 2 heures de Londres, 2 heures de Bruxelles, moins de 2 heures de Paris. Donc les transports sont bien, sont faciles pour aller dans ces capitales européennes?
Le train est parfait pour aller à Londres ou Bruxelles ou Paris. On peut même aller à Amsterdam en passant par Bruxelles.
D'accord.
Donc, c'est très accessible, mais c'est très cher.
Oui, donc le train, ça va être... C'est des trains en plus rapides. Donc, il y a le train de Eurostar pour aller en Angleterre. Et je crois que ça s'appelle le Thalys, c'est ça?
Oui, pour aller en Belgique. Et le TGV pour aller à Paris. Et je pense que c'est cher car c'est beaucoup utilisé par des professionnels qui se déplacent pour des raisons... il doit y avoir des personnes qui travaillent dans la politique, mais aussi dans des entreprises privées. Et du coup, c'est un moyen très rapide de se déplacer en Europe. Mais du coup, pour le tourisme, c'est plus difficile.
Ok, donc une situation géographique très intéressante. En termes de taille, on a dit c'est dans les 10 villes les plus grandes. Quelle est sa place exactement? Est-ce que tu sais?
Eh bien, c'est très intéressant. La ville de Lille, en fait, c'est une métropole. Et du coup, comme métropole, elle regroupe plusieurs autres villes qui vont faire d'elle la quatrième ville, la quatrième plus grosse ville française. Mais... si on prend juste la ville de Lille, elle redescend au classement d'au moins 10 places.
D'accord.
Parce que Lille, comme ville sans les ajouts métropolitains, fait moins de 300 000 habitants. Et l'Eurométropole, alors il y a la métropole qui comprend les villes françaises, et il y a une Eurométropole qui comprend aussi des villes belges à la frontière, la ville de Tournai par exemple. Et là, on arrive à 1,5 million d'habitants.
D'accord. Donc, quand Leïla nous parlait de métropole, donc c'est vraiment effectivement la ville de Lille en elle-même, so in itself, et toutes les petites villes, villages qui sont géographiquement juste à côté. On ne voit pas la différence, en fait, quand on passe d'une ville à une autre. Donc, c'est un peu the suburb. Leïla disait la quatrième ville de France. Donc, en France, il y a Paris, Lyon et Marseille, qui ont une compétition entre les deux. Et ensuite, Lille, si on regarde la métropole.
C'est ça.
En termes de relief, est-ce que c'est une ville avec des montagnes, avec la mer? Qu'est-ce qu'on a?
Alors, c'est très plat.
Alors, plat, ça veut dire flat.
Toute la région est plate. Mais on est à 45 minutes en train de la mer. La mer du Nord.
La mer du Nord, très bien. Est-ce qu'il y a des rivières qui sont symboliques, importantes?
Alors, il y a la Deule, qui est un fleuve qui passe dans l'île. Mais c'est assez drôle, car c'est un fleuve pas du tout exploité pour une ville. D'habitude, sur les quais d'un fleuve qui passe dans une ville, il y a souvent des activités, des parcs... À Lille, le fleuve est vraiment utilisé pour faire du transport de marchandises.
D'accord. Oui, c'est vrai, si je pense à Paris avec la Seine est très très utilisée et exploitée. À Lyon, il y a le Rhône, pareil, très utilisé. Et oui, je ne connaissais pas le nom de la Deule. Ça veut dire que ce n'est pas très connu.
Non.
Ok. Et dernière question. Question générale, son climat. Quel est le climat de la ville de Lille?
Alors, vu qu'on est au nord de la France, on a ce stéréotype qu'il pleut beaucoup et qu'il y fait très froid. Et je suis assez d'accord avec ça pour l'automne et pour l'hiver, mais en été, il fait particulièrement chaud.
D'accord.
Mais... on apprécie beaucoup le fait d'être près de la mer, car il y a beaucoup de vent. Alors, on l'apprécie au printemps et à l'été. En automne et en hiver, le vent est vraiment glacial.
Mmh, donc, très froid, glacial. Donc, c'est plutôt un climat océanique. Alors, c'est un climat qui n'est pas... En termes de température, est-ce que ça gèle? Do you have frost? Est-ce qu'il y a beaucoup de neige ou non? Ça reste dans les... 0 degré minimum.
Ah, je pense qu'il y a 20 ans, il y avait encore beaucoup de neige et beaucoup de gel. Mais la ville est aussi un bassin, on est dans un bassin industriel qui est très pollué, qui est souvent victime de pics de pollution. Donc, qui font vraiment beaucoup monter les températures. Et les premières années où j'ai vécu à Lille, j'ai vu plus de neige qu'à la fin.
D'accord. Donc là, on voit un vrai changement climatique au niveau de la ville. Donc, tu as commencé à nous parler, oui, que c'est une ville industrielle, donc avec les problèmes de la pollution. Mais en termes d'histoire, je crois que c'est vraiment très intéressant de refaire un peu l'histoire de la ville de Lille avec l'industrie. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire ?
Oui, partiellement.
Un peu, une partie.
Spécialiste, mais on voit les traces dans les différents quartiers. La ville de Lille est très intéressante parce que on peut voir les quartiers où vivaient les propriétaires d'usines avec des très beaux immeubles, des maisons de maître, beaucoup de dorures aussi, et des maisons ouvrières et des quartiers de maisons ouvrières qui sont aussi très intéressantes au niveau de l'architecture. Si on ne reste pas que dans Lille et qu'on peut aller à Roubaix et Tourcoing, qui sont des villes qui font partie de la métropole, là, on entre dans une grosse histoire industrielle, notamment une histoire de l'industrie du textile. L'industrie minière, en fait, était un peu plus loin dans la région, mais ruisselait financièrement sur toute la ville de Lille.
Donc, Leïla a dit le mot « usine ». Donc, « usine », it's a factory. Donc, elle disait, dans la ville de Lille, il y a géographiquement deux zones, et c'est très visible. Il y a la partie riche, avec les personnes qui étaient des propriétaires et des chefs d'usine, et la partie des ouvriers. Donc, ouvriers, c'est les personnes qui travaillent dans les usines. Et ensuite, elle parlait des villes à côté, et elle parlait de l'industrie textile, donc ça c'est facile à comprendre, et de l'industrie minière, the mines. Parce que je pense, oui, le nord de la France, mais aussi la Belgique, et sont très célèbres pour le charbon, so the coal. C'est correct ?
Oui, et pour une petite anecdote, les amas de charbon et de terre mélangées qui sont aux abords des villes minières, ça s'appelle des terrils, donc comme des petites montagnes. Et désormais, elles sont exploitées pour faire de la randonnée ou du vin. Ce que je trouve assez chouette.
Ok, donc ce qui au début était un déchet, ce rubbish, qui de l'exploitation minière, de l'exploitation du charbon, maintenant a été transformé en quelque chose de positif pour la région, pour le tourisme, pour l'environnement. Ok.
Oui, on retrouve beaucoup ça dans toute la ville. Les usines désaffectées deviennent des musées, deviennent des boîtes de nuit, des salles de concert, mais aussi des tiers-lieux, donc des lieux pour faire plusieurs activités et faire rencontrer les gens, donc avec de la cuisine, des jeux, de la culture en général, mais aussi un peu de sport.
D'accord, donc il y a vraiment une nouvelle dynamique, quelque chose de positif qui se passe dans la ville de Lille.
Oui, c'est une ville très attractive de sa proximité avec les capitales et grâce à son dynamisme culturel. Elle a été capitale de la culture européenne en 2004 la première fois, puis en 2011, ce qui a fait rayonner la ville dans toute l'Europe.
Oui, ce statut de capitale européenne de la culture, donc je crois que c'est chaque année, ça change. Je crois que c'est avec une élection, avec un vote, mais donc quand une ville dans l'Union européenne a ce statut, c'est effectivement très important, ça développe du tourisme en particulier. Et donc Lille a eu ce statut deux fois, donc c'est très intéressant. Ça montre l'importance de la culture dans la ville et ça aide la culture à se développer encore plus.
Exactement.
Très bien. Et donc ce passé industriel, est-ce qu'il il est complètement fini ou est-ce qu'il y a encore de l'industrie
à Lille ? Il y a encore beaucoup d'industrie aux alentours de la ville de Lille, de l'industrie chimique et textile encore. Mais surtout, il y a les sièges sociaux, les headquarters, de beaucoup de grandes industries françaises, notamment les supermarchés, beaucoup de supermarchés. Il y a beaucoup de grandes familles propriétaires d'entreprises françaises qui sont de Lille et qui ont développé leur réseau. Du coup, pour les plus connus, il y a Carrefour, il y a Decathlon, qui sont des enseignes internationales.
D'accord. Donc oui, c'est intéressant parce qu'on imagine souvent les sièges sociaux à Paris, parce que Paris, c'est la capitale, c'est la ville la, en termes de, d'économie la plus forte en France. Mais en fait, Lille a vraiment une position de par son histoire et de par sa géographie. En fait, il y a des grandes richesses et des patrimoines très importants dans cette ville.
Oui.
Donc, est-ce que physiquement, en termes d'architecture, Lille est une ville agréable ? Est-ce que c'est sympa de se promener dans Lille ?
C'est très beau, car ça fait partie des Flandres, et les Flandres au sens historique. Pas que géographie, les Flandres, ça comprend une partie de la Belgique, une partie des Pays-Bas et une partie française. Mmh. Et il y avait beaucoup de richesses, et notamment, il y a une histoire très particulière... les rois espagnols qui étaient en Flandre. Et du coup, on retrouve à la fois le passé industriel avec beaucoup de briques rouges et, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de dorures et de la grande place de Lille, qui est la place principale, et un bijou d'architecture et est une belle illustration de l'architecture flamande.
D'accord. Donc, quand tu dis les Flandres, j'imagine que si on va donc en Belgique ou aux Pays-Bas, on peut retrouver des choses communes.
Oui, complètement. D'ailleurs, la ville de Lille a un nom en flamand.
D'accord. Comment elle s'appelle ?
Rissel.
Rissel.
Qui s'écrit R-I-J-S-E-L.
Donc avec un J.
Et si on est en Belgique flamande, sur les panneaux, il est écrit Rissel.
Ah, et pas Lille.
Okay. Faut le savoir.
Effectivement, c'est intéressant. Donc, une très jolie ville à visiter, juste pour se promener. Est-ce qu'il y a des musées ou des lieux vraiment en particulier à aller visiter ?
Oui, il y a le musée de la piscine qui est à Roubaix, qui est un très beau musée qui est dans une ancienne piscine ont été gardés beaucoup d'espaces architecturaux du début du XXe siècle, tout en y ajoutant les pièces, des très belles pièces de musée. Alors, on retrouve beaucoup d'art du XXe. On peut y voir des Picasso et en même temps, on plonge dans un équipement sportif du début du siècle. Donc, c'est assez amusant. On peut y voir aussi des photos de l'époque. Et en plein milieu, il y a un gros couloir avec le bassin qui est encore là, qui n'est pas rempli d'eau parce que c'est
pour la sécurité.
Dangereux pour les œuvres, mais et, un super travail de vitrail.
D'accord. Donc vitrail, c'est les, par exemple dans les églises, hein, quand il y a ces fenêtres avec qui représentent une image avec de la couleur, donc stained glass. D'accord, donc oui, j'ai vu des images de ce musée, donc de la piscine. Donc c'est vraiment imaginer une ancienne piscine du début du XXe siècle, c'est ça ? Donc époque art déco, c'est correct ?
Exactement.
Oui, c'est ça, donc c'est de l'art déco. Et autour de cette piscine, ils ont construit des bâtiments modernes. Donc c'est ce mélange ancien, donc art déco, moderne, avec et c'est vraiment un musée, oui, avec des œuvres et des artistes très célèbre comme Picasso.
On trouve aussi le Tripostal, qui est un musée d'art contemporain, qui est dans un ancien centre de tri de la Poste. Du coup, il est en plein centre de Lille, à côté de la gare, parce que c'était plus pratique à l'époque où il a été construit d'amener directement le courrier du train jusqu'au centre de tri. Et ce que j'aime dans ce musée, c'est les dimensions. C'est un centre de tri, c'est des bâtiments gigantesques. Mmh. Et ça permet justement de beaucoup s'amuser dans les expositions, surtout en art contemporain. Moi, j'y ai déjà vu un éléphant accroché au plafond. C'est souvent des expositions très accessibles. Et c'est un lieu qui a réussi à être très chaleureux et très convivial malgré le fait que l'art contemporain puisse faire peur.
Oui, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que en France, on a une image de l'île et du nord de la France en général comme une région un peu dévastée, une région pauvre, parce qu'il y a eu la désindustrialisation. Mais en fait, quand on t'écoute, on entend le contraire, quelque chose de très dynamique, avec une énergie vraiment fantastique, et tournée sur les capitales européennes, sur la culture, les musées. Donc c'est très intéressant aussi pour moi qui ne connais pas le nord de la France. Donc merci. Est-ce que tu aurais des recommandations personnelles? Donc là plutôt des bars, des restaurants, un endroit que tu aimes vraiment, pas de la culture.
On mange très bien à Lille. C'est une ville qui, comme tu disais, elle a eu un passé désindustriel. Et ça fait que une vingtaine d'années que Lille a repris de sa superbe et qui devient dynamique. Et ça a laissé beaucoup d'espace à des gens très créatifs de s'installer. Et notamment sur la cuisine, on a de superbes restaurants qui cuisinent avec des produits locaux. Je pense au Bleu Canard, qui était mon restaurant fétiche. Je pense aussi au Uno's Bar, qui est un bar avec des tables de ping-pong et plein de jeux.
Oui, donc il y a vraiment une créativité, pas seulement dans l'art, mais dans tout, en fait. Dans la cuisine, dans l'architecture... parce qu'il y a eu une période avec beaucoup d'argent, après une période sans argent, et ensuite, maintenant, ça revient depuis 20 ans.
Oui.
Donc avec une énergie, un dynamisme intéressant. Parfait. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose?
On a peu parlé du fait que Lille était une ville interculturelle. Donc avec... des quartiers où on va retrouver des populations qui viennent d'Afrique du Nord et d'Afrique, qui sont des quartiers dans le centre-ville, contrairement à beaucoup d'autres villes en France où ça va être des endroits dans les banlieues, justement.
Oui, dans les périphéries. Oui, ça c'est très intéressant, parce que si on compare avec Paris, le centre de Paris, c'est le centre riche, et plus on va loin, plus il y a des populations immigrées ou issues de l'immigration. Mais donc là, c'est l'inverse.
Alors, on n'est pas sur le centre pur, mais on est à 5 à 10 minutes à pied du centre.
Okay.
Et en fait, ce sont les anciens quartiers ouvriers qui sont des quartiers qui sont restés populaires, malgré la hausse des prix en ce moment, dans les dernières années. Mais c'est une ville... qui est multiculturelle, voilà. Mmh.
Donc, on retrouve de la gentrification, mais probablement moins que dans d'autres villes. La ville a gardé quand même des zones de mélange, de partage, où ce n'est pas
des
ghettos.
Mmh. Dans une de mes recommandations, c'est d'aller le dimanche dans le quartier de Oisem, pour aller sur le marché et voir justement à quel point cette ville est un centre culturel avec autant de diversité de nourriture et de personnes, et dans une très bonne ambiance. Et Lille est aussi connue pour sa braderie, qui fait venir 1 million de personnes de toute l'Europe.
Alors, c'est quoi une braderie?
C'est une grande brocante.
Alors, on va expliquer brocante. Donc, le principe, c'est que c'est des gens comme moi ou Leïla qui vendent leurs objets de leur maison. Donc, c'est en anglais, on peut dire car boot sale. Donc, c'est pas des professionnels. En théorie, moi, ce que je connais d'une brocante, c'est vraiment des personnes individuelles qui vendent les objets qu'ils n'utilisent plus dans leur maison. Donc on peut trouver des vieux vinyles, on peut trouver des vêtements, on peut trouver des jouets pour les enfants. Et donc on peut dire brocante ou braderie. Et donc celle de Lille est très très célèbre et populaire. Tu as dit 1 million de personnes?
2,5 millions.
Oh, wow. Donc en fait, pas 1 million, mais 2,5 millions. Donc c'est énorme. Et c'est quoi? C'est à quelle période de l'année?
C'est le premier week-end de septembre.
D'accord. Donc tu recommandes cette période ou peut-être c'est trop intense?
Moi, c'était trop intense, mais certaines personnes peuvent aimer.
D'accord. Très bien, donc c'est pas du goût de tout le monde, mais sinon tu nous disais le printemps, l'été sont des bonnes périodes, peut-être éviter l'automne, l'hiver, hein, parce qu'il fait froid et il pleut, donc ce n'est pas le meilleur moment pour venir. Très bien, merci beaucoup Leïla.
Merci à toi Gaëlle de m'avoir invitée, ça m'a fait plaisir.
Bah oui, c'était un plaisir de découvrir l'île avec toi. Je te souhaite une très bonne journée. Je souhaite aussi à nos auditeurs une très bonne journée. Et je vous dis à tous, à la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out LanguageTalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languagetalk.com/frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!